Découvrez l'auteur derrière les mots dans Paroles d'écrivain.
Oui, eh bien, bonsoir. Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui William Maurer pour son livre « L'été lurique, les dialogues du soufre et de l'éther ». William Maurer, bonjour.
Bonjour.
C'est un livre particulier puisque ce n'est pas à proprement parler un roman. Ce sont des suites des scénettes un peu...
Alors, c'est un livre très particulier.
Oui, oui. Voilà, j'avais relevé l'avant-propos et puis également une introduction poète qui s'appelle Petit Pont.
Le Pestipon,
voilà. Et qui avait parlé de vous, de votre livre, comme des poèmes terrestres, et qui prend en compte des activités humaines, volcaniques, obscènes et merveilleux, surgissement, j'avais noté. Alors, il y a des c'est en vers, c'est en prose, c'est un peu, c'est très varié comme écriture.
Oui.
Et vous-même, vous l'avez défini comme des poésies philosophiques, ésotériques, religieuses, un peu le langage olympien, mythologique, gréco-latin, africain, arabe, etc.
C'est assez
varié. Quoi.
Oui, c'est extrêmement varié. Donc c'est mon premier livre et en fait je voulais que ce livre ait une ambition un peu totalisante dans les différentes façon d'appréhender la condition humaine, en fait, avec différents personnages, des personnages extrêmement différents, qui ont chacun une façon très particulière de parler. Et je voulais, en fait, que dans ce livre, on soit surpris, voire choqué par les différences de style qui sont amenées nécessairement par les différences de caractère entre les personnages. Puisque dans la vie telle qu'on la connaît, on peut avoir des personnes qui s'expriment de façon extrêmement différente, en utilisant des styles très contradictoires. Mmh. Et comme ce livre se voulait un peu un reflet de ces différentes conditions humaines, si on peut parler ainsi, en utilisant un peu les personnages comme des échantillons de vies diverses que l'on peut vivre, et qui sont très opposés les unes aux autres, s'expliquer la différence de style, et c'est ce qui explique aussi le caractère, je dirais, pour utiliser un terme un peu barbare, polygénérique, pour le dire plus simplement, c'est-à-dire que dans ce livre, il y a un peu tous les genres, donc les scénettes peu philosophiques, en prose, écrit par Icare, donc un des personnages qui est professeur donc de lettres, qu'il y a aussi de la poésie, parfois en prose, parfois en vers. Et il y a des poèmes où il n'y a qu'une seule phrase, qu'une seule ligne, il y a des textes très longs. Et ce que a dit Monsieur Le Pestipon, qui était mon professeur quand j'étais en Cagne, et qui a utilisé vraiment la métaphore la plus juste pour mon livre, c'est qu'il faut voir chaque texte en fait comme une forme de plaque tectonique, voilà, et avec des plaques qui s'entrechoquent. Et justement, encore cette semaine, j'ai eu des retours de lecteurs qui me disaient qu'effectivement, ils avaient été surpris par les différences de style, parce que d'une page à l'autre, ça change tout complètement.
Totalement. Oui. Oui, et alors donc, ce que je disais, vous avez écrit ce livre, il y a plusieurs, une sorte de... J'en ai sélectionné, moi,
parce que, bien sûr,
il y a beaucoup de...
C'est, oui.
Voilà, alors je ne sais pas si vous en avez sélectionné vous aussi, également, puisque vous nous lirez un extrait tout à l'heure, ou un passage. J'avais commencé par celui que vous avez intitulé « Le cœur et l'estomac des cochons ». Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Je vous avais reçu, j'avais oublié de le préciser, pour le monde de Gigi auparavant.
Oui, c'est vrai. Oui.
C'est tout à fait différent. C'est pas du tout.
C'est très différent.
Voilà, c'est différent.
À la fois très différent et en même temps, il y a une histoire. C'est-à-dire que dans mon premier livre, en fait, il y a déjà un chapitre du monde de Gigi. Parce qu'au départ, je ne voulais faire qu'un seul livre. Et puis, je me suis dit que ce n'était vraiment pas la meilleure chose à faire. Et c'est pour ça que les Telluriques et le monde de Gigi sont sortis en même temps. Parce qu'à la base, c'était un seul et même livre. Donc, j'ai décidé de les séparer, de faire du monde de Gigi, on dirait, un roman à part entière. Mais il y a quand même, dans la version finale des Telluriques, un chapitre qui se retrouve dans le monde de Gigi aussi.
Oui,
voilà, donc, il y a des passerelles.
Voilà, alors pour en revenir au premier, celui que j'ai sélectionné, puisqu'il y en a plusieurs, le cœur et l'estomac des cochons. Alors, tu peux nous le résumer exactement ce que par ce texte.
Oui, alors les cochons, en fait, ça fait partie d'un...
Franklin.
Ça fait partie d'un ensemble de chapitres. Donc, à chaque fois qu'on a, on va dire, ce style très soutenu, et en même temps, avec ce titre qui commence par D, comme on trouve, par exemple, dans les systèmes de Montaigne, en décoche, etc., donc ça vient de là. Donc Icare, c'est un personnage à part entière, voilà, qui est dans son monde, qui est totalement déconnecté du monde contemporain, qui a un humour un peu à l'anglaise, très particulier, pince sans rire comme on dit. Et donc dans ce chapitre en fait des cochons, qui est autobiographique, faut le dire, c'est un développement philosophique à partir de quelque chose d'assez trivial, c'est-à-dire oui. Il arrive chez une de ses tantes, sa tante avec ses deux filles. Donc, ils ont un cochon de compagnie qui s'appelle Franklin, qu'ils aiment beaucoup. Voilà. Et sauf que, évidemment, c'est une porcherie, donc l'odeur est insoutenable. Et à partir de là, il va développer une réflexion sur les rapports humains-animaux, le rapport qu'il a avec les animaux, et puis avec ses tantes, avec ses cousines. Enfin, voilà. Et la question fondamentale, c'est... Ben déjà, peut-on avoir un porc de compagnie ? Et c'est surtout la différence, la réflexion se porte vraiment sur les modifications qu'on peut avoir dans nos rapports aux choses, aux êtres, a fortiori aux animaux, selon la nécessité des circonstances. Parce que pendant des années, on va dire, elles adoraient ce cochon, c'était un cochon de compagnie, voilà. Le Covid est passé, elles l'ont mangé. Voilà, parce que voilà, pas se déplacer, confinement, tout ce qu'on veut, voilà, elles l'ont mangé. Et elles m'ont dit que c'était très bon. Voilà, donc ce qui m'a intéressé, en fait, un peu choqué presque, c'est c'est comment, en fait, dans les rapports qu'on peut avoir aux autres, même un simple porc, comment, en fait, les rapports peuvent changer d'un instant à l'autre suivant nos conditions d'existence. Bon, après là, ça a une allure un peu humoristique et cocasse par ce qui est utilisé, donc un animal, etc. Mais je veux dire, jusqu'à quel point, voilà, dans un autre contexte, entre des humains, en fait, jusqu'à quel point les rapports, on va dire, d'amitié, d'amour que l'on peut avoir, voilà, les uns aux autres, peuvent être conditionnés et changer du tout au tout selon le changement, on va dire, socio-historique. Voilà, si demain, ça ne va pas arriver, mais si demain il y a la famine en France, je pense que certains rapports d'amitié et d'amour vont être légèrement altérés. Icare, c'est ça, en fait. C'est prendre un détail de la vie et en faire une réflexion beaucoup plus large. Mm-hmm. Souvent, c'est ce qu'il fait dans les scénettes.
Et alors, j'en ai sélectionné un autre que vous avez intitulé « Un homme comme les autres ».
Un homme comme les autres. Alors oui, là, on n'est pas du tout dans le même univers. On n'est pas du tout dans le même style. C'est, donc, ça suit un trentenaire qui s'appelle Guillaume.
Qui n'arrive pas à dormir.
Peut-être que justement, je développerai ce chapitre pour en faire un livre. En tout cas, c'est prévu. On verra si j'y arrive. Donc ça, là, en fait, moi, là, on est vraiment dans le cadre d'un roman réaliste. C'est un roman réaliste, Guillaume. Donc, il a 30 ans, il fait un travail pas intéressant, qu'il aime pas du tout. Il prend le métro le matin très tôt. Donc, en fait, ça a un reflet en fait du trentenaire contemporain, avec toutes les problématiques que ça peut avoir de la solitude, du rapport aux autres, etc. Et là, on a vraiment un changement de style par rapport à Icare, qui lui, c'est très soutenu. Voilà, très... Et là, on est quelque chose qui est plutôt dans l'ordre de la simplicité, de l'intime et du réaliste. Oui.
Il pense à Sarah sans arrêt.
Bah oui, il pense à Sarah. Donc, effectivement, il est célibataire. Il ne sait pas trop comment se débrouiller avec les filles. Okay. Il a essayé avec une fille qui s'appelle Sarah, mais ça ne marchait pas, et puis elle est partie, mais désolée parce que ça marche pas. Lui aussi, il est désolé. Bon. Il y a Guillaume, en fait, il est un peu pour moi témoin, le symptôme et le résultat de cette époque. Je crois que c'est Lipovetsky qui appelait ça l'ère du vide. C'est-à-dire, il y a un vide qui s'installe, un vide existentiel, voilà, dans la quête de sens, et il en appelle la victime. Donc voilà, c'est pour ça que les relations, il se questionne sur sa nature d'homme. Et il est un peu prisonnier de la vision qu'on peut avoir de l'homme. Donc à un moment donné, il pense à Sarah, voilà, qui est partie. Il a encore ses quelques affaires qui traînent dans son appartement. Il pleure, mais il fait croire qu'il est malade parce que dans son esprit, un homme ne doit pas pleurer. Bon, voilà.
Dans le métro, il fait le malin d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu pour moi quelque chose du roman expérimental. C'est un peu un prototype de ce qu'un trentenaire contemporain peut vivre.
Alors le troisième que j'avais sélectionné, que vous avez intitulé « La tentation de l'œil ou de la curiosité sur le modèle de l'esprit géométrique de Pascal. »
Oui. Je me suis vraiment amusé sur ce premier bouquin. Ouais. Je ferai plus ça après.
Il y a plusieurs spécimens. Alors, spécimen A, spécimen B...
Oui, je me suis amusé. En fait, je lisais Pascal, donc il y a vraiment ce style voilà, très, très géométrique, très, très carré, voilà, où on liste des choses que j'ai voulu appliquer dans une situation. Donc, c'est toujours Icare qui parle à part. ouais. coup. Il est dans le, il prend l'avion, il n'arrive pas à dormir, il s'ennuie. Là, il regarde quelques passagers, voilà. Donc, et pour lui, voilà, il voit un spécimen, un autre. Puis, il est assez moqueur, hein, ce personnage, oui, hein, oui, assez satirique. Oui, oui. Bon. Et à partir, on va dire, de ces observations, il va faire tout un développement sur le degré de curiosité voilà, qui baisse dans le monde contemporain.
Il les classe un peu.
Oui, c'est ça.
Classification.
Oui. Hein. Il s'amuse à faire des classifications un peu loufoques.
Sur la curiosité.
Oui, voilà.
Le degré de curiosité de ces spécimens qu'il appelle.
Oui, c'est ça. Spécimens. Oui. Donc, oui, parce que c'est vrai que la notion de curiosité, il fait tout un développement sur le paradoxe de notre temps, c'est-à-dire que les moyens de communication et d'accès à la connaissance n'ont jamais été aussi faciles d'accès. Et en même temps, il y a quand même une baisse drastique on va dire, de la curiosité, de l'appétit pour différentes connaissances et des savoirs, même qui ne sont pas pratiques. La tendance est à l'utilitarisme, donc l'attrait qu'on pouvait avoir pour on va dire, des connaissances qui ne sont pas effectives à l'instant a drastiquement diminué. Donc, il part, on va dire, de quelques personnages pour faire du coup à nouveau une sorte de forme d'élévation vers le général sur l'appétit pour les connaissances dans le monde contemporain qui chute. Voilà.
Bon, mais je crois que nous passons à notre pause musicale. Vous avez choisi comme pause musicale
alors le ballet de la nuit de Jean-Baptiste Lully.
Très bien, mais nous allons l'écouter. Alors maintenant, vous allez nous lire un extrait de...
Je vais lire un extrait donc, de Le cœur et l'estomac, donc les cochons. L'une de mes tantes avait reçu en cadeau un énorme cochon, dont la fortune était déjà tracée sur le fil du billot vers l'issue funeste et privilégiée que notre espèce réservait à la sienne. Par un miracle ineffable, qui avait au moins nécessité l'alignement des planètes, la famille entière s'amouracha de l'animal qui évita de justesse la guillotine et devint très vite un bon port de compagnie, aussitôt baptisé du doux nom de Franklin. En hommage à la tortue du dessin animé éponyme ou à l'inventeur du paratonnerre, je ne sais. Toujours est-il que ce monstre ne m'aimait pas et je le lui rendais bien. Devant leur portail, avant même de l'avoir rencontré, j'avais senti d'emblée qu'une inimitié naturelle et réciproque serait inévitable. Mon nez ne me faisait que trop pressentir et appréhender ce que mes yeux ne voyaient pas encore. Son parfum musqué était tellement fort qu'il le précédait d'un kilomètre. Vous étiez à peine avancé dans la rue que vos narines vous suppliaient de faire demi-tour sous peine de vous faire crever sur place. Quelle ne fut pas ma surprise en entrant dans le jardin. C'était de ces puanteurs indicibles, incroyables, qui ne se contentent pas d'annihiler votre odorat, mais vous aveuglent, vous rendent sourds, vous brûlent et vous paralysent. Pendant quelques secondes, vous demeurez là, pétrifié, hébété, en deuil devant votre pensée. Votre nez vient de perdre la foi. La beauté du monde, une illusion qui s'écroule. L'amour, une chimère. Le pardon ici, impossible. Les concepts et catégories devenus flous se confondent en un vertige nauséabond. Vous sentez en vous quelque chose qui n'était pas vivant et qui pourtant a réussi à mourir. Votre père en sueur vous presse d'avancer, armé de son seul mouchoir. Regard suppliant, jambes tremblantes, vous faites quelques pas. Vous sentez sous votre pied droit une chaleur salvatrice jusqu'à ce que, bravant leur peur, vos yeux veuillent bien regarder le sol et, choqués, courent se cacher sous les paupières. Une déjection trop récente. C'en est fini. Votre corps tout entier est tâté. L'esprit, moins directement touché, résiste. Mais pour combien de temps? Tiendra-t-il jusqu'au perron? Que mes sens ne savaient pas possible. N'êtes-vous pas le meilleur argument des esprits forts? Un dieu bienveillant ne vous aurait pas faite. Odeur devenue gifle. Claquement de fouet. Molécules d'excréments envahissant tous les orifices de votre crâne. Dissolvant tout votre être dans une espèce exhalaison putride inconnue au tableau de Mendeleïev. Voilà.
Très bien, merci. Oui, et alors moi je voulais revenir sur un quatrième extrait que j'avais extrait, passage que j'avais relevé, sur la philo. Où il parle beaucoup de sa mère. Hein,
oui.
C'est une aînée de 8 enfants, précisé. Et 14, précisé qu'elle a 14 oncles, enfin qu'il a 14 ouais. oncles et tantes. Et ensuite vous parlez d'elle, donc, en tant qu'élégance morale, supériorité intellectuelle, qu'elle lit Voltaire, Sepulveda. Elle a des problèmes avec Platon, etc., etc. Donc, vous avez voulu exprimer une pensée particulière, philosophique, à ce sujet, au sujet de cette mère.
En l'occurrence, il s'agit de la mienne.
Ah bon, alors donc...
c'est autobiographique. c'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'a intéressé, outre le fait de parler de ma mère, hein, c'est... Même si elle l'a lu, elle aime beaucoup, bon voilà, tout va bien. Mais disons que souvent, on dit que ce sont les parents qui doivent éduquer leurs enfants. Bon, ça a été le cas ici également. Mais autant ma mère, au départ, n'avait pas un goût pour les livres. Et quand j'ai commencé à lire, souvent, elle rentrait dans la chambre, elle me disait « Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est nul. » Et ensuite, mon frère, le Benjamin de la fratrie, donc Stéphane, à force de me voir lire des bouquins, il s'y est intéressé aussi et a commencé à faire des études de philosophie. Et ma mère, donc, à force de justement voir moi avec ma littérature, mon frère avec la philosophie, elle a fini quand même par s'y intéresser à ces livres qu'elle avait tant dédaignés auparavant. Et elle s'est prise de passion pour la philosophie. Moi, j'ai un peu mal pris parce que moi, je suis plutôt le versant littéraire, donc elle a plutôt choisi le sentier de mon frère. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, c'est un peu l'inverse. Donc, elle me disait encore hier, c'était que là, c'est plutôt les enfants qui ont influencé les goûts des parents. Et donc, c'est ce qui l'a amené à faire un master de philosophie, etc. Donc, maintenant, elle a un niveau bien supérieur au mien. Et donc, dans ce chapitre, ce qui m'intéressait, outre le caractère un peu biographique, c'est la façon dont on peut, dont nos goûts peuvent changer en fonction des conditions dans lesquelles on est. En l'occurrence ici, les conditions familiales. Et avec donc mon frère et moi et le goût pour les livres. Donc les livres sont venus matériellement en fait dans le foyer. Et à force en fait non seulement de voir les livres, mais de les côtoyer, puis de nous côtoyer et de nous voir lire les livres, etc. Elle a fini par s'y intéresser et à être passionnée beaucoup plus que moi par la philosophie finalement. Puis donc, ce texte a quand même une vocation humoristique parce que, on aime beaucoup la philosophie, mais quand on doit aller à la République de Platon, elle a commencé à un peu souffrir. ces gros bouquins, l'écriture est très petite. Bon, et puis c'est quand même intéressant de voir les réactions qu'elle pouvait avoir à certaines thèses qui lui semblaient atroces. Platon pour elle, mais virer, on va dire, les poètes de la cité, voilà, il n'est pas drôle, fondamentalement. Ce passage est quand même autobiographique, mais a quand même une portée universelle pour les personnes qui peuvent justement, dont les goûts peuvent être développés par ceux des enfants. Alors que souvent, on s'attend à ce que ce soit l'inverse.
Oui. Voilà. Et vous dites qu'elle a échoué dans la lecture de Proust.
Bon, alors...
Ce qui peut se comprendre, Marc.
Alors, échouer, j'ai envie de dire, pour avoir échoué, il faut... Enfin,
Oui.
Alors, Proust, c'est quand même, c'est très philosophe. Enfin, c'est, c'est une œuvre philosophique. Mais le style, elle a été réputée par le style.
C'est le style.
Les phrases très longues.
Phrases de Proust.
Longtemps, je me suis couché de bonheur.
Oui.
Jusque-là, ça va. Mais la deuxième phrase, c'est fini. Donc, voilà. Et à un moment, moi, ma chambre était au rez-de-chaussée. Celle de mon frère, qui faisait la philosophie, était à l'étage.
Elle vient me voir, elle voit que je lis Proust, elle s'en va. Et puis voilà, et puis je les retrouve là, tous les deux, bon, à lire je ne sais quel philosophe. Donc il y a eu un peu ces situations, elle se cherchait entre, on va dire, la littérature et la philosophie. Bon. Et donc finalement, c'est sa philosophie qui l'a emportée. Et justement, donc, elle qui a lu les telluriques me disait que ce qu'elle préférait, c'était justement les parties philosophiques, voilà, avec ce style-là. Autant Emmanuel, bon, avec son langage, voilà, très vulgaire, enfin, voilà, il y a une vulgarité dans le style d'Emmanuel. Elle m'a dit, en gros, qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Mais pour une fois, on va dire, le choc digéré, j'ai fini par apprécier.
Et alors, j'ai relevé aussi un extrait, que vous avez intitulé, et apparemment ça a l'air d'être différent du texte, mais en fait ça le rejoint, « Montaigne et Marie Tudor » ou « Du chewing-gum ». Et vous parlez également de votre beau-frère, enfin d'un beau-frère qui s'appelle Gabriel.
Oui, alors ça c'est fictif, c'est le beau-frère en fait d'Icare, donc le personnage dont nous avons parlé au début de l'interview. Donc en fait c'est un roman qui est caché en fait dans un recueil poétique, essayistique, avec une écriture très fragmentée. Et donc là, on est lors du mariage, voilà, de Rose et de Guillaume, les personnes dont on a parlé. Et Gabriel est donc le frère de Rose et donc le futur beau-frère d'Icare dans les relations familiales. Et donc Gabriel est compositeur et il a eu en fait la... Il s'est donné pour mission d'écrire la musique du mariage de sa sœur avec Guillaume. Et en fait, sauf que lui, il a pris la chose vraiment très au sérieux. Il a voulu écrire une musique vraiment très, très élaborée, mais beaucoup trop élaborée pour le public, pour sa sœur, enfin pour les mariés en tout cas. Bon. Et Icare, qui assiste à ça, il est le seul vraiment à comprendre ce futur beau-frère. Voilà. Et Gabriel, donc, c'est quelqu'un en fait, qui est catholique, qui est très religieux. Alors que Icare, c'est un athée, un dandy athée, voilà, un côté satirique, voilà. Et sur le plan en fait du comportement et sur le plan moral, ce sont des personnages qui sont extrêmement éloignés. Sauf que Gabriel sent que sur le plan, on va dire, des goûts, notamment musicaux ou littéraires, etc. Il est beaucoup plus il est justement proche de ce beau-frère qui est athée, enfin qui est aux antipodes de ses croyances. Et donc ce chapitre explore justement ce problème d'être face à quelqu'un qui partage les mêmes goûts que nous, dont on se pourrait faire un ami, mais qui en même temps contredit toutes les croyances morales, religieuses ou même politiques que l'on pourrait avoir, ce qui arrive souvent. Qui peut arriver assez souvent. Et il décrit en fait donc Gabriel, donc ce beau-frère, en disant qu'il y a un côté Montaigne, c'est-à-dire un côté humaniste, fondamentalement, voilà, tourné vers la dignité de l'autre, etc. Mais que si on regarde bien, il y a une Marie Tudor qui sommeille, c'est-à-dire chose qui est l'ordre de la rigueur, voilà, c'est sanglant, la vérité sanglante, oui.
C'est l'esprit d'une Marie Tudor empêchée dans le cœur de Montaigne.
Oui, c'est ça.
Hein, c'est ce que j'ai relevé, cette phrase.
Oui, c'est ça. Donc ça résume un peu l'ambivalence de ce genre de personnages que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Hein. Des personnages qui, de prime abord, à qui justement on pourrait donner le bon Dieu sans confession, c'est-à-dire qui respirent, on va dire, la sensibilité, la fragilité, l'empathie, la pitié, mais qu'on serait peut-être au XVe siècle, ce serait le pire des inquisiteurs. Voilà, c'est un peu ce personnage-là.
Très bien, mais je crois que vous voulez aussi, alors, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, puisque vous êtes riche, mais je crois que vous voulez parler d'autre chose, d'une suite de ce livre.
Alors, une suite des telluriques. Alors, pour l'instant, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, il y a peut-être l'idée d'en faire une version théâtrale de ce livre. Parce que là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de textes qui s'y prêtaient.
Oui.
Donc une adaptation, on me l'a déjà suggéré, donc une adaptation théâtrale des telluriques,
Voilà, et donc en plus d'autres projets théâtraux. Voilà, là en ce moment, et même pour les années à venir, je pense que je me tournerai davantage vers le genre théâtral plutôt que le genre romanesque ou poétique, même si je pense que l'année prochaine, il va y avoir quelques publications. Voilà, je pense à mon recueil de poésie qui s'appelle La rage de l'abstraction, qui va sortir l'année prochaine. Pour l'instant, donc pour le projet actuel, pour les projets futurs, ce sera surtout le genre théâtral, notamment avec le monde de Gigi adapté en pièce de théâtre en alexandrin et donc qui sera donné le 4 juillet.
Le 4 juillet.
Oui. Comme je le disais, donc dans les telluriques, il y a un chapitre du monde de Gigi. Ensuite, il y a le monde de Gigi, donc le conte. Ça a été adapté une première fois en pièce de théâtre en prose. Et ce que l'on va jouer, ce que l'on va créer dans la chapelle des Carmélites le samedi 4 juillet à 20h, c'est donc la version en alexandrin. De la pièce de théâtre qui s'intitule Le Monde de Gigi qui mêle, on va dire, chant, théâtre, danse, musique. J'invite tous vos auditeurs à venir nous voir. André ici présent, qui joue le rôle de Mao, un des personnages principaux.
Ah, si. Et vous qui allez jouer le rôle de...
Je joue le chat de gouttière.
Chat de bouquet.
Oui, c'est donc le monde de Gigi, c'est un monde rempli d'animaux, un peu dans l'esprit de La Fontaine. Et donc c'est l'histoire d'un chat de gouttière à Paris qui rencontre une pigeonne Meredith, on en avait déjà parlé. Y a un bug, le chat n'a pas envie de manger la pigeonne n'a pas envie de s'enfuir.
Il n'a pas envie, des fois il lui a envie de la bouffer.
Il a envie mais il n'y arrive pas, voilà. Il a envie, il essaie, malheureusement il y a quelque chose en lui qui ne fonctionne plus. L'un des instincts naturels.
Elle est sympa cette pigeonne.
Voilà. Elle est sympa, il va peut-être la laisser en vie. Alors qu'il a faim. Ils vont être accusés, il va y avoir un procès, c'est ce qu'on va créer le samedi 4 juillet. C'est dans un mois.
C'est demain pratiquement.
On peut dire que c'est demain. C'est un spectacle plein d'animaux. Il y a un ange qui se balade, il y a une rose, il y a des danses, il y a du chant, il y a de la musique. C'est drôle, c'est triste, ça dépend des moments. Je vous invite vraiment à venir partager ce moment avec nous.
D'accord. Et alors, vous avez plusieurs... Vous êtes seul acteur ou vous avez
Nous sommes une quatorzaine de comédiens. Il y a aussi un groupe, un orchestre sur...
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 35 personnages.
Ah, quand même, oui.
Il y a 35 personnages. Mmh. Il y a environ 14 ou 15 comédiens, je crois. De musiciens, pareil, environ une quinzaine. Ça fait à peu près... on a à peu près une trentaine...
Il me semble que 35 en tout nous étions.
35 à peu près, oui. Sur le projet, en comptant le chef d'orchestre, les comédiens, les musiciens.
Ah oui, quand même.
Donc c'est un gros projet.
On ne peut pas réduire le nombre de comédiens, ça aurait été la bienvenue, parce que ce serait plus simple, mais étant donné que c'est une pièce où il y a un procès qui se déroule... les délibérations, qui est une partie, le cœur de la
moitié,
pièce.
C'est la moitié des personnages. En fait.
C'est la moitié des personnages. Et il faut bien se rendre compte que c'est vraiment les prémices du procès, le procès et les résultats qui va durer 3 heures en tout, avec un bon entracte, buvette et...
Voilà.
C'est vraiment pour les derniers jours de la saison musicale des Carmélites. On a un très beau répertoire musical
Pour le répertoire musical, c'est très écrit. Là encore, on balaye large. Ça va de Lully à Ravel. Il y a Lully
du baroque,
du baroque à la musique moderne, Lully, Rameau, Mozart, Bach, Handel, Scarlatti, Vivaldi, Ravel, Fauré, Beethoven, vraiment, voilà quoi. Il y a vraiment de quoi plaire à tous les mélomanes.
Très bien, mais je crois que nous allons, à moins que vous vouliez rajouter certaines choses concernant surtout le spectacle, puisque...
Oui, donc vous pouvez...
Est-ce que vous faites voilà, de la publicité ?
Oui, c'est ça, on fait de la publicité. Donc si vous voulez réserver, vous pouvez taper donc, le monde de Gigi Ensemble William Maurer. Mm-hmm. Voilà, nous avons un site sur Elo Asso, on peut réserver directement. Mm-hmm. Voilà, ou sinon, vous pouvez très bien venir vous présenter à la billetterie le jour J. Mm-hmm. Voilà, avec le risque, effectivement, que ce soit déjà complet. Donc je vous invite quand même à réserver au préalable. Voilà, où vous pouvez très bien donc nous envoyer un message sur notre adresse mail. Donc c'est ensemble Maurer, hein, tout attaché, @outlook.com. Voilà, où nous envoyer un SMS voilà, sur le numéro qui figure donc sur internet facilement. Voilà.
Très bien. Eh bien. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Je rappelle le titre donc, de votre livre entièrement, puisque bon, c'est l'été lyrique, mais c'est l'été lyrique ou les dialogues du souffle et de l'éther.
Exactement.
Paru aux éditions, on n'a pas parlé de la maison d'édition, le Lys Bleu.
Le Lys Bleu, oui.
C'est ça. Hein. Mais très bien, je vous remercie. Donc je vous donne rendez-vous bah, vous-même, peut-être pour le prochain livre, parce que vous
avez, avec
vous
plaisir.
Avez bien avancé. Et je vous souhaite beaucoup de succès pour ce spectacle qui va se dérouler le 4 juillet.
C'est ça, le 4 juillet au Carmélite.
Au Carmélite. Très bien, mais je vous remercie. Merci à très bientôt.
À très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Altitude